Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Bonjour à tous. Alors, une émission de lecture par tous, peut-être un peu... On va voir. Peut-être un petit peu spécial. En tout cas, il y a un bouquin assez spécial. C'est un peu rock, c'est un peu déjanté. Bon, j'aime pas ce mot-là, mais enfin, bon, on l'utilise très souvent. Et puis, ça va bien pour ce bouquin.
Comme il y a beaucoup de roues, forcément.
Voilà.
Un peu déjanté.
Oui, les pneus sont. Il n'y a plus les pneus, donc c'est vraiment du déjanté. Bonjour, Bob Passion.
Bonjour.
Alors, Bob Passion, musicien. Mais aussi écrivain. Alors, écrivain, musicien, musicien, écrivain, ou encore autre chose.
Ouais, un peu de tout pour faire un monde, on dit.
Faut un peu de tout voilà. Pour faire un monde, ouais.
Excellent, photographe, rien mais prêt à tout.
Ouais. Tu me disais photographe au départ.
Oui, j'ai commencé comme photographe. Je suis toujours photographe. Je suis un photoshopper fou.
Voilà. Photoshopper fou. Alors ça, je l'avais pas encore entendu, celle-là.
Je fais mes photos avec mon appareil photo et après je les transforme. Sur
oui, non, mais je saisissais la référence. Bon, et puis moi, je suis pour le logiciel libre. Moi, je fonctionne avec Gimp, pas avec Photoshop.
Ben, mais moi, je l'ai craqué, tu crois quoi.
Ah, chut, faut pas le dire. Voilà. Donc, on reçoit Bob Passion pour son premier roman. J'allais dire son dernier roman. Ce serait vache de dire ça pour le premier roman, que c'est le dernier roman.
C'est le premier publié, on va dire. Hein.
Premier publié, ouais. Voilà. Hein. Dernier sorti.
Voilà, ouais.
Hein, Le Cavalier Hilar, alors c'est sorti
chez
Vendailleurs, hein, qui c'est le volume, si je crois bien, qui inaugure une collection, ouais, une nouvelle collection chez Vendailleurs consacrée au roman noir au sens large du terme, a priori. Hein. Alors, Le Cavalier Hilar, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ça? Alors, on veut peut-être dire, comme on dit le pitch, enfin non, pas le, comment on dit déjà le terme pour le cinéma, voilà le
fil rouge, non,
voilà le plus court que le résumé, voilà, très court.
Le teaser,
le teaser, ce serait quoi? Un Belge polyglotte,
ouais,
hein, flamand, français,
oui.
Allemand,
oui.
Un peu de russe,
oui.
Hein, avec on appelle ça aujourd'hui un post-traumatique, là.
Oui, voilà, c'est ça.
Hein, quelque chose de post-traumatique lié à la guerre.
Aux guerres, en fait. Parce que guerres, là, ouais. On le rencontre. En fait, c'est l'histoire. Je voulais travailler sur les fous de guerre. On a à peu près le même âge,
d'accord.
Tous les deux. On est une génération où, finalement, on est les premiers à jamais avoir vu la guerre, quoi.
On est une des rares générations, voilà. Effectivement, qui a vécu sans guerre directe sur le territoire où on vit.
Sur le territoire, on n'en a pas eu.
Il y en a eu ailleurs.
À la télé, on en a eu. Donc, ma foi, je suis quelqu'un qui... Notre génération, on a quand même l'écho des parents qui l'a vécu.
Ouais.
Voilà, mais cet écho, il nous donne une peur, mais pas une peur réelle. C'est une peur, c'est une peur qu'on ressent à travers le ressenti de la génération d'avant. Et ma réflexion, c'était ça. Comment on peut rentrer dans la guerre? Comment on peut être dans la guerre sans devenir fou? Voilà, donc c'est l'histoire de Jacques qui a 16 ans quand les Allemands envahissent l'Allemagne. Et qui pourra un crouton de pain et un blouson.
Peut-être la Belgique plutôt, non?
Parce que
les Allemands qui envahissent l'Allemagne.
Cela dit,
j'ai envie de dire, historiquement, c'est pas faux. Mais il ne faut pas dire les Allemands, c'est les nazis qui ont envahi l'Allemagne.
Voilà. Et donc, il suit le truc sans vraiment avoir une conscience politique, mais juste parce qu'il y a un crouton et un gros blouson, quoi.
Ouais.
Voilà,
ouais,
et puis après, disons que la partie guerre du livre, c'est un tiers.
Ouais.
Et c'est son errance en même temps dans sa tête. Et en même temps, dans les faits de guerre, il se terre pendant 3 mois sous un camion, quoi.
Alors, sans dévoiler, c'est toujours dans le moment, on n'aime pas trop dévoiler, parce qu'il y a des chutes à préserver. Alors, on va essayer de ne pas trahir. Bon, il a été à la bataille de Stalingrad.
Voilà, ouais.
Hein, et puis, la bataille de Stalingrad, c'est le tournant de la guerre, hein, pour ceux qui ont, les plus jeunes qui n'ont pas ce souvenir. Notre génération, on a étudié ça. Mmh. On en a beaucoup entendu parler. Et puis les Allemands vont prendre la pâtée, quoi. Mmh. Après un siège très long, mais ils vont finir par prendre la pâtée. Et puis il n'est pas du bon côté.
Voilà, c'est la débâcle.
Donc c'est la grosse débâcle. Ça va être sa retraite de Russie à lui.
À lui tout seul, oui.
À lui tout seul, parce qu'il a perdu de son unité. Il est vraiment tout seul, tout seul.
Et surtout, il n'a pas de conviction. Ce n'est pas sa guerre.
Oui, puis
on lui fait pas confiance.
Qu'est-ce qu'un Belge fiche là-dedans, quoi,
hein. C'est un crouton de pain et un blouson. En gros, c'est ça le...
Et puis, bah, il va se retrouver dans un coin perdu, une espèce de village, de reste vague village, déjà détruit à 90%, et ça va continuer pendant le temps qu'il va y être. Il va s'abriter sous une carcasse de voiture, il va y passer des mois.
Oui, 4 mois, ouais.
Ouais, ouais. Puis il va quand même faire une sacrée trouvaille, un gros paquet d'or.
Voilà, un gros paquet d'or et un moulon de cordite.
Voilà, et puis, bah voilà. Et puis bah, ça va partir de là. Et puis on va avoir un trou dans le récit.
Ouais.
On va le retrouver
fou
à
complet.
Marseille.
Voilà.
Complètement starbé, comme
fou
on dirait
complet,
aujourd'hui. Voilà.
Alcoolique.
On a une première scène qui plante tout de suite. Alors pour les lecteurs, on a un prologue qui plante tout de suite le décor. On a Jacques qui sort de chez lui.
Mm-hmm.
Mais il sort de chez lui. On se dit, mais on est où ? On est à Sarajevo avec des snipers à tous les coins de rue ou quelque chose comme ça.
On est à Marseille dans les années 80. Ouais.
Mais on est à Marseille dans les années 80. Je ne sais pas si c'est... Alors, on peut faire le rapprochement. Et on se dit, il a un problème, ce monsieur. Il a un problème.
Ah, il a un sérieux problème, oui.
Voilà. Et puis, on va avoir un trou dans son histoire, comme lui, un trou dans sa propre histoire. Voilà, le lecteur aura le même trou.
Oui, oui.
Hein, on va tout d'un coup...
C'est un trou commun pour tout le monde.
Pouf, c'est le trou. Et puis, y a des photos qui vont remonter à la surface, qui vont réapparaître et qui vont faire remonter des souvenirs. Mmh. Une espèce d'obsession sur cet or.
Une obsession qu'il avait déjà, mais pour lequel on ne prenait
diffuse,
pas au sérieux. Oui.
Et qui va se préciser. Et on n'en dit pas plus. Lisez le livre et vous saurez. Alors, comment est venue l'idée de ce personnage
J'avais
mon voisin. Tu disais les fous de guerre. Mais...
Voilà. Mon voisin était un fou de guerre, gestapiste.
Ouais.
Et dans la rue, j'avais un autre fou de guerre qui était sac de sable. Donc j'ai mélangé les deux fous de guerre pour en faire un personnage. Et tout le temps que j'ai eu ce voisin gestapiste, je me suis toujours demandé si...
Tout petit peu plus... Voilà.
Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui avait pu... Tu veux qu'on reprenne ?
Non, c'est
voilà, bon. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il avait amené à être aussi fou et être resté coincé dans la guerre. Donc j'ai inventé une histoire qui pouvait être plausible pour expliquer sa folie, quoi. Et je me suis donc servi des deux personnages pour en créer...
Donc il y a des personnages réels derrière,
qui
ont existé.
De toute façon, après, je pense que c'est un peu toujours pareil. Je ne suis pas un grand écrivain, je ne sais pas comment ils font les autres. Mais il y a toujours une part de réalité dans les gens avec lesquels on va s'amuser à les faire vivre.
Alors, il va y avoir un tas d'autres choses. Alors, ce n'est pas le seul personnage.
Non, il y en a
un
paquet.
On peut peut-être évoquer... Oui, il y en a un paquet, alors... Jacques, c'est le personnage principal, Jacques Bourgard.
Mm-hmm.
Alors, un autre personnage qui joue un rôle important.
C'est Pascal.
Pascal, c'est ce que j'allais dire.
Pascal, c'est un rocker, photographe, un peu dealer aussi.
Alors, rocker, photographe, pour le reste, j'en sais rien. Ça me fait penser à quelqu'un qui est dans le studio en ce moment.
Ouais, c'est des expériences partagées, ça s'appelle. Non, c'est en même temps un clin d'œil sur les années 80. Sur l'avant-globalisation, c'est-à-dire que justement, à l'époque, ben voilà, les fumeurs, les dealers, c'est un tout petit groupe dans la ville. C'est,
ouais.
pas... Puis c'est justement l'arrivée de l'industrialisation du trafic. Donc ça fait partie aussi de ce dont j'avais envie de parler.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose que tu décris de ce qui est... J'allais dire le trafic. Non, c'est même pas du trafic. C'est peut-être pas le bon mot, justement.
C'est des connoisseurs.
Ça va devenir effectivement le trafic, les deals et puis le grand banditisme derrière.
Voilà.
Mais il y a un côté artisanal,
épicurien,
consommateurs de drogue
qui
sont plus près de poètes comme Henri Michaud. Il y a quelque chose un peu d'une quête et d'un art de vivre.
Mais je pense que c'est exactement ce qu'est devenu la société, c'est-à-dire on veut que tout le monde consomme. Donc il s'est passé la même chose avec les drogues, c'est une super grosse rentrée d'argent dans le système du pays, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est une réalité. Et déjà justement, c'est une bande d'amateurs un peu cinglés qui font ça en dilettante, c'est le récréatif. Et c'est la charnière du moment où justement les cités vont s'emparer de ça et d'un coup ça devient vraiment... un vrai trafic, quoi.
Puis on a affaire à des dégustateurs.
Ah oui, on a affaire à des connaisseurs
qui comparent vraiment des qualités de produits.
C'est un truc qui m'a toujours un peu choqué. C'est-à-dire, on peut dire, ouais, ce Bordeaux, alors tu comprends, il a de la robe, il a du corps, il est fruité. Ben, on peut dire la même chose sur les dopes, quoi. Un fumeur, il va faire une parallèle, il va dire, oh, celui-là, tu vois, c'est celui du matin, il te met en forme, tu vois. C'est pareil, j'ai envie de déconner avec ça aussi, quoi.
Oui, oui. Bon, les amateurs de cigares le font aussi.
Voilà, hein, bah, c'est pareil, oui, oui.
Voilà. Alors, il y a ça, donc c'est un des aspects du roman. Alors, il y a aussi la question de l'art qui va être très présente, parce qu'on a ce photographe, il est dans les milieux
l'art contemporain,
de l'art contemporain estampillé, j'ai envie de dire, hein, en quelque sorte. Il va aller à une expo à Berlin, Berlin-Ouest, avant la chute du mur.
Voilà.
Et puis il va même faire une petite incursion pas très réjouissante à Berlin-Est. Failli avoir de gros problèmes même. Donc on a ces milieux de l'art. Alors qu'est-ce qui est
c'est pareil, c'est un peu ce système global où si on fait partie de l'équipe, si on a le vocabulaire, on peut être estampillé art contemporain. Maintenant, quelqu'un qui fait quelque chose... Pour moi, l'art, c'est un jet du cœur. Que ce soit l'écriture, la photo, la peinture, la sculpture, c'est un jet du cœur. Après, pour devenir un bon artiste, il faut travailler sa discipline. Donc, pour rentrer dans l'art contemporain, il faut un discours avec sa discipline. Et il y a plein de gens qui sont des artistes qui n'ont pas le discours autour de leur travail, parce que c'est un jet du cœur. Donc, aller expliquer un jet du cœur, c'est compliqué. Surtout si on n'est pas formé à ça. Donc voilà, j'avais envie de plaisanter un peu avec les arts contemporains parce que ben, j'ai travaillé beaucoup dans ce milieu-là aussi et qu'il y a une espèce de snobisme de celui qui a le meilleur vocabulaire fait la meilleure œuvre d'art, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Et là, donc, on peut dévoiler ça. Hein. C'est Jacques qui fait la meilleure œuvre d'art conceptuelle du moment. Et 40 ans avant que les gens s'en rendent compte, Jacques Beauregard était un grand artiste contemporain. Alors voilà, qu'il n'a jamais touché ni un pinceau, ni un...
Et qui ne s'est absolument pas posé la question de l'œuvre d'art.
Ça veut dire l'art contemporain, lui, c'est un fou de guerre.
Non, il avait besoin de faire un truc qui fasse peur et qui fasse point de repère pour lui dans l'avenir.
Voilà.
Ce que ça va faire, effectivement.
Ouais, bien sûr, ça fonctionne. C'est justement ça, c'est l'art contemporain s'empare de choses et on fait beaucoup de mousse autour sans forcément que ce soit nécessaire.
Alors, est-ce qu'il y a des... pour ce personnage de Jacques sculpteur, on va dire, Jacques artiste, il y a une grande partie de beaucoup de descriptions qui sont consacrées à l'œuvre qu'il a laissée sur place, là-bas, dans les plaines de Russie, qui a l'air macabre, effrayante, très impressionnante. Alors, est-ce que c'est sorti de l'imagination complètement d'un auteur, la possibilité d'une œuvre comme ça, ou est-ce qu'il y a derrière des œuvres existantes ?
Alors c'est marrant parce que depuis qu'il est sorti, ce bouquin, je reçois des photos de gens qui disent « Tiens, je l'ai vu la statue, c'est celle-là !» Et c'est marrant, je t'en montre une que j'ai dans mon appareil photo, j'en ai trouvé une hier dans les collines au-dessus de Montpellier, là. J'en ai trouvé une, je te la montrerai, qui correspond aussi à...
Qui correspond à l'esprit de ce
sculpture. Oui, voilà, la manière de voir la chose, oui.
Oui, une sculpture raconte que tout est hérissé, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas approcher.
Ouais. C'était le but. Le but, lui, il veut faire quelque chose que les gens auront peur
absolument
et ne toucheront surtout pas.
Effrayant et repoussant. Voilà, ouais.
Un mausolée.
Les mausolées, des fois, on y va pour rendre visite et rendre hommage à...
Là, c'est un mausolée de la guerre.
Pas d'hommage, s'il vous plaît. Dégagez. Il n'y a rien à voir ou ce qui a à voir, doit vous faire peur et vous faire partir.
Effrayant, ouais.
Alors voilà, on a ce travail sur l'art contemporain aussi. Et puis il y a Marseille.
Oui, Marseille qui est un personnage.
Il y a beaucoup de choses sur Marseille. C'est un des personnages. Alors avant de parler peut-être de Marseille un peu spécifiquement, il y a aussi un personnage en couleur qui
est... Patron du bar ?
Non, je pensais à Rosa, l'infirmière.
Ah, bah c'est sa femme, là. Oui, c'est un personnage central. Hein.
Voilà.
C'est un personnage central.
Alors,
qu'on entend
que jurer, d'ailleurs.
Elle est plus folle que lui. Mais ensemble, c'est le seul qui arrive à la calmer, en fait.
Ouais.
Elle est atteinte d'une maladie qui existe. Hein. Je me suis servi d'un truc réel. J'ai discuté avec un psy. Je connaissais quelqu'un qui était dans ce cas, en fait. Elle est normale au travail et folle à la maison. Donc cette femme a travaillé pendant des années, elle était infirmière, Rose, c'est pour ça que j'ai mis Rose infirmière. Elle travaillait des années, elle allait soigner des gens qui devaient péter de trouille quand ils la voyaient rentrer dans la chambre, quoi. Et par contre, à l'hôpital, elle était complètement normale, mais dès qu'elle rentrait chez elle, elle était complètement folle. Donc voilà, je me suis servi de tous ces petits détails de vie qui sont des clins d'œil, qui sont aussi des réalités, pour raconter une histoire complètement en fiction, quoi.
Alors, Marseille, on est dans un... dans un immeuble marseillais. Alors, c'est très bizarre, ça tient du squat, du domaine public, on ne sait plus trop ce que c'est exactement.
C'est une réalité sur ce qui se passe dans toutes les villes, comme Montpellier, je suppose aussi. C'est-à-dire la mairie laisse tomber un quartier, le laisse s'écrouler, rachète en faisant préemption pendant 15-20 ans, ils s'en foutent, le quartier s'écroule et donc... forcément, il y a plein de maisons vides. Et si quelqu'un a un copain à la mairie qui peut faire un petit détour, il se débrouille pour choper l'appart le temps que la mairie casse le quartier. C'est ce qui s'est passé sur toute la ville. C'est ce qui continue à se passer dans toutes les villes qui sont au bord de la mer spécifiquement. Parce qu'on attend toujours qu'il arrive quelqu'un de riche qui habite un peu dans le nord, qui descend et qui va acheter ça à 3 fois le prix. Enfin, voilà, c'est l'ambiance. Et donc là, on est à l'orée de ça. Parce que dans les années 80, Marseille, c'était une ville qui faisait peur à tout le monde. Les touristes ne venaient pas parce qu'ils se faisaient voler leur voiture. Il y avait une aura de la ville qui faisait peur à tout le monde. D'ailleurs, moi, je tournais avec le théâtre à l'époque. J'étais immatriculé 13 et je peux vous dire que dès qu'on sortait du 13, on était contrôlé, mais direct. À part dans le 93, c'est nos frères, nos frères de déboires, c'est les 93.
C'était pas juste une question de rythme, il y avait peut-être une question sociale un peu similaire.
On jouait énormément en Seine-Saint-Denis, donc 93.
Ouais.
Et c'était le seul endroit où on pouvait garer la voiture sans avoir la police sur les épaules, tout direct. Donc voilà, c'est un peu un clin d'œil justement à est-ce qu'il vaut mieux rester des sauvages avec mauvaise réputation ou des gentils imbéciles qui se font dépouiller de ce qu'ils ont,
Alors, tu me disais aussi, la construction du roman, c'est la façon construit d'une façon un petit peu particulière. Est-ce que tu peux en dire deux mots?
Moi, j'écris sans plan. Donc, je me laisse aller à mon délire. Et j'essaye de pas trop m'éloigner pour pouvoir toujours rattraper le wagon suivant,
Alors, c'est un peu par comme une succession de photos.
Oui, voilà. Moi, j'ai construit. En tant que photographe, j'ai l'habitude de faire de la diapositive.
C'est pas le roman photo, mais enfin.
Non. Non, mais je trace un cadre dans lequel je vais me promener. Et donc, c'est vrai que après, tu vois, en cinéma, on dirait que c'est un storyboard.
Ouais.
Je travaille le scénario comme un storyboard. C'est-à-dire, j'ai des images, je travaille dans l'image. Quand je passe à une séquence suivante. C'est une autre case, c'est une autre image. Il faut qu'elle soit rattachée à celle d'avant et qu'elle précède celle qui va suivre. Mais je travaille vraiment comme ça. J'ai vraiment un cadre. En fait, quand j'écris, je vois vraiment l'image dans ma tête. La statue, l'ai, par exemple.
C'est vrai. Maintenant que tu le dis, moi, je suis en train de le lire. Je ne suis pas tout à fait terminé. C'est vrai que dans les chapitres, il y a quelque chose qui est posé du cadre.
Voilà, c'est un cadre et après, on va se promener dans le
cadre. Temps, espace, clac-clac. Et puis, voilà à quel point du récit on en est. Et puis à l'intérieur, ça commence à brasser.
C'est vraiment écrit comme un storyboard.
Alors là, on va voir des plans larges, des plans serrés, des contre-plongées, tout ce qu'on voudra.
Beaucoup de lumière. Oui,
c'est important.
Bien sûr, oui. Oui, bien sûr, parce que déjà, on parle d'une ville ensoleillée.
Ouais.
Et puis d'autre part, la lumière, c'est quand même ça qui rend les choses jolies,
Oui, c'est vrai que alors il y a
deux
lumières.
Les choses LED aussi, hein.
Il y a deux lumières.
La lumière, c'est la vérité,
Il y a deux lumières qui s'opposent, Celle que tu dis, qui pourrait être méridionale, puis il y a cette. C'est vrai qu'il y a l'idée de grisaille qui revient beaucoup dans toute la partie qui se passe. Alors Berlin-Est.
Là, c'est carrément gris.
C'est franchement gris et totalement déprimant. Mais ça correspond à plein de témoignages qu'on pouvait avoir des gens qui voyageaient dans les pays de l'Est avant la chute du mur.
C'est une expérience personnelle, là, par exemple, Berlin. Je suis allé à Berlin, je suis allé à l'Est. Je suis quelqu'un qui pense très à gauche. Donc, en voulant voir qu'est-ce que c'était ce communisme, tu reviens, tu es vraiment super déçu. Mais voilà, cette grisaille, j'avais envie d'en parler. Pour moi, je pense que justement, la génération des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'était le mur de Berlin, ils ne peuvent pas avoir cette idée de la peur. T'imagines, un matin, on te construit un mur au milieu de Montpellier, ta famille de l'autre côté, elle ne peut pas revenir. C'est incroyable, Je suis né l'année du mur de Berlin.
Donc 1961.
Il est tombé, j'étais déjà largement plus qu'adulte, Et c'est aberrant, Enfin, c'est un truc, ça paraît... C'est pas deux pays, c'est le même pays. Et puis voilà, t'as pas de cul, t'habitais de l'autre côté du mur. Et puis c'est fini, tu vas être communiste malgré toi pendant les 50 prochaines années. C'est quand même assez hallucinant.
Oui, puis ça, on a des histoires de murs dans l'histoire contemporaine. Hein, voilà,
oui, ça continue, bien sûr. Mais disons que ça, mais c'est en Serbie maintenant qu'il y a ça.
Voilà, c'est une ville qui a été coupée en deux.
Oui, là, c'est une ville qui
a été coupée en deux. Ce n'est pas une frontière qui a été rendue infranchissable, voilà, oui, c'est une ville coupée en deux.
C'est le même pays, quoi. Voilà. Et puis là, c'est... justement, j'en parle un peu dans le bouquin, mais du coup, le métro qui était... pré-guerre, hein, qui existait avant la guerre, il y a des stations où finalement tu ne descends pas et tu passes dans ces stations vides. Et il y a des stations où tu vois tous les gens ils sont différents parce que c'est des gens de l'Est. Et pourtant c'est le même pays, quoi. Enfin voilà, j'avais envie de rappeler aux gens que ça peut arriver des conneries de ce genre, d'un coup de se retrouver. Ben, c'est la Serbie en ce moment, ou la Bosnie aussi, où il y a un mur pour séparer les communautés dans la ville, qui ça peut rien faire d'autre que d'envenimer, quoi.
Oui, puis on va à Belfast, en Irlande, on a des rues que tout d'un coup c'est devenu des cul-de-sac parce qu'il y a un mur qui sépare
les deux villes.
Les communautés catholiques et protestantes. Donc c'est quelque chose qui est souvent arrivé et qui pourrait re-arriver et qui re-arrive n'importe où à tout moment. D'autres personnages importants
Moi j'aime bien le sculpteur qui garde la maison pendant que Pascal est à Berlin.
Ouais.
C'est un personnage, il est toujours à pied, il prend jamais le bus, et il ramasse des bouts de bois, des pierres, et il passe des heures et des heures à les polir, et il les vend aussi bien dans l'art contemporain pour des millions de francs, puisqu'on est dans l'époque où c'est encore les francs, et en même temps il les laisse dans les restaurants
Brahim,
payer sa note. Quoi. Alors, oui.
Brahim,
c'est son frère.
Ah, c'est le frère, voilà. Alors, je
l'ai Abdel. Lu.
Voilà. Oui, qui a, alors, c'est... bon, pas besoin de préciser son origine avec le prénom. C'est vrai qu'il a une dimension zen comme artiste.
Ah, c'est un archi-zen.
C'est...
Son frère, c'est vraiment celui des quartiers. Et lui, c'est... va savoir pourquoi il est devenu artiste...
Oui, puis ce que tu racontes, on imagine des sculptures à la Henri Moore, des choses comme ça, très
épurées,
oui. Douces, polies et repolies. Ouais,
polies avec le petit doigt en l'air. Hein.
Voilà. Et qui est tout l'opposé de l'expressionnisme complètement fou que Jacques a élaboré sans
c'est,
savoir.
En fait, c'est celui qui est arrivé le premier à communiquer avec Jacques... Parce que, justement, son zen fait qu'il arrive à rentrer dans la tête de ce fou furieux, quoi.
À accepter ses comportements délirants, voire inquiétants. Mais bon, ça ne le panique pas plus que ça. Il arrive à le calmer, effectivement. C'est un des rares. Alors, on parlait de musique. Alors, on entend un petit peu de musique à certains moments.
Il
y en a un petit peu.
Bande son, oui.
Est-ce que c'est important, la musique? Est-ce que ça nourrit? Est-ce que ça accompagnait le travail d'écriture? Par exemple, je me rappelle d'un écrivain qui me disait, j'écris ça, j'avais telle musique en fond, en permanence.
Non, moi, de toute façon, mon problème, c'est que j'ai la musique dans la tête tout le temps. Donc, je suis capable d'entendre quelque chose et d'entendre... dehors quelque chose, à l'intérieur quelque chose de complètement différent. Je me sers de mon imagination pour aimer la musique quand je l'aime pas.
Alors, je crus comprendre, comme ça, deviner, c'est le premier roman publié, mais c'est pas le premier exercice d'écriture,
non.
J'ai l'impression.
Non, j'ai trois romans.
D'accord.
C'est le premier abouti.
C'est le premier qui est suffisamment abouti pour que tu décides de le présenter à un éditeur ou le premier accepté par un éditeur?
Non, en fait, j'ai vraiment eu un coup de chance terrible avec ce bouquin. Je l'ai présenté une seule fois à une personne qui travaille, on peut dire les noms des éditions, qui travaillait à Gallimard.
D'accord.
Et qui m'a dit, non, ça, Gallimard ne le prendra jamais, mais par contre, ça me plaît et je vais m'en occuper. Comme moi, j'ai 10 métiers à la fois. J'ai dit, si tu l'as dans les mains, vas-y. Et puis, je ne m'en suis plus jamais occupé.
Et du coup, qui a fait office d'agent littéraire.
Voilà. Et trois ans après, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, il faut qu'on se rencontre. On ne s'était jamais vu. Elle m'a dit, il faut qu'on se rencontre parce que là, c'est chaud. Il y a des gens qui veulent le prendre. Et donc, oui, c'est vraiment un coup de chance hein, parce que je n'aurais pas galéré. Je pense que je n'aurais pas la même vision à l'arrivée si j'avais passé mon temps à envoyer des manuscrits, reçu des refus et des...
Oui, donc là, il y a quelque chose
d'un peu miraculeux. Il est allé dans trois maisons d'édition avant que je rencontre cette dame.
Ouais.
Enfin, avant qu'on me fasse envoyer ce manuscrit à cette dame. Et j'ai eu un refus direct. Mais Après, je n'ai jamais pu réessayer, vu qu'elle m'avait dit que ça lui plaisait, qu'elle y croyait. J'ai dit, allez, vas-y.
Allez, c'est bon, je m'en occupe
c'est
plus.
Bon, c'est bon, oui, c'est bon.
Il est sur les rails et advienne que pourra.
Voilà, oui, oui.
Alors, des envies de poursuivre dans, ce travail d'écriture.
Moi, j'ai toujours écrit. Hein, j'ai toujours écrit. C'est un truc que je ne montrais pas forcément aux gens. Bon, les gens, on est à la radio, ils ne me voient pas, mais je suis quand même un peu un croqueur. Et donc, les gens ne pensent pas forcément que je suis capable de tenir un discours intelligent, quoi.
Le livre, il est très construit. Et puis, on l'a entendu dans ce qu'on en a dit. Hein, c'est plein de références. On peut en faire plein de lectures. Mm-hmm. On va le confier à des universitaires. Ils vont nous faire des analyses de ça. Non, ce serait dommage.
Je vais finir par me retrouver en sculpture dans un musée contemporain.
Voilà. Alors, d'autres, il y a des choses qui sont en chantier ou pas
Oui, oui. Moi, j'habite au Cambodge. Donc, il y a un roman sur le Cambodge qui est quasiment fini, qui demande à être... Après, c'est toujours une fin d'écriture. Après, il y a un gros boulot de... J'enlève ça, je remets ça, je change, il y a des répétitions. Donc, il y a quand même du boulot dessus, mais il est fini. Et puis, il y en a un autre sur la guerre froide. De la même manière que je parle de l'art contemporain, je peux parler de la guerre froide d'une manière vraiment détachée et marrante. Voilà,
ce ne sera pas une réflexion... Enfin, ça peut en être une, mais ce ne sera pas les allures d'une réflexion universitaire les stratégies américano-soviétiques pendant la guerre froide.
Non, pas du tout. C'est pareil. Ce que j'aime bien dans ce livre et dans ce que j'en vois, c'est que je pense que tout le monde retrouve un copain, lui, dans ces histoires. Je pense, c'est le retour. Hein. Moi, j'ai un peu du mal à parler du bouquin parce que d'abord, ce n'est pas mon vrai métier. Enfin, je veux dire, c'est un truc nouveau qui me tombe sur la figure, de devoir en parler.
Ouais,
après,
ouais,
de l'écrire,
ouais.
Non, ce n'est pas un truc nouveau, j'écris depuis toujours. Mais de devoir expliquer le pourquoi, le comment, c'est quand même assez nouveau. Et je pense que les retours que j'ai sur les critiques, parce que je suis assez surpris des critiques que je chope sur Internet et des gens qui m'écrivent, c'est que tout le monde retrouve un copain à lui dedans. Il dit « Ah ben lui, je le connais !» Le mec, il a Sarcelles, je dis, oui, peut-être, mais il a dû descendre à Marseille à un moment donné. Quoi. Voilà, quoi. Donc c'est ça qui est bien, c'est que je pense que tout le monde trouve un petit truc à lui, un petit clin d'œil à lui dans ce bouquin. Quoi.
Oui, quand tu le racontes comme ça, ça me faisait penser, alors c'est un autre genre de référence, hein, c'est l'histoire de Monsieur Brun chez Pagnol. Quoi.
Voilà, en même temps, si tu veux...
Vous avez dû le rencontrer, alors
Tu vas à Paris, il y a Gandolf. Si tu n'as pas vu Gandolf, tu n'es pas allé à Paris.
Voilà, c'est
justement, j'avais pas... Alors, j'ai un énorme respect pour Marcel Pagnol. Respect, parce que c'est vraiment du beau cinéma et c'est un super écrivain. Mais justement, il nous a coincés dans cette histoire de Marseillais qui fait
Il y a pittoresque Marseillais. On oublie que c'est un pittoresque Marseillais des années 30. Mmh. Marseille a peut-être évolué quand même depuis.
Oui et non. Oui et non.
Oui et non.
C'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est notre folklore qui nous nourrit. On se nourrit de notre propre exagération. Et on tombe dans ce piège-là aussi. Parce que finalement, tu vois, quand tu es comédien... Eh bien, si tu as l'accent marseillais, quand tu fais le flic de deuxième rôle, l'idiot du bar, mais finalement, un rôle sérieux, tu vois d'ailleurs toutes les... vous en avez une à Montpellier, là, de série. Il n'y en a pas un qui a l'accent.
Ah non, non. Général, c'est des comédiens qui viennent de Paris, d'ailleurs.
Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je fais méfie de la pagnolade. Et en même temps, on est une pagnolade. On ne peut pas faire autrement. On est comme ça. Voilà. C'est-à-dire que tu vas dans un bar à Marseille, tu écoutes les discussions... T'as l'impression que, que c'est...
D'ailleurs, je recommande aux lecteurs, à peu près au milieu du livre, il y a un chapitre consacré à Marseille et surtout du rapport des Marseillais à leur ville et à leur style de vie, j'ai envie de dire, qui est assez drôle. Les Marseillais ont besoin d'exagérer, c'est une vieille légende, mais d'exagérer les côtés positifs et négatifs, négatifs de Marseille,
bien sûr. On dit toujours que finalement, Marseille, il n'y a que les cigales qui travaillent.
Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, votre passion.
Ben, c'est moi.
Je crois qu'on entend votre passion, si je puis me permettre, à parler de ce livre. Si on a un petit peu de temps, on terminera à la place du générique, on mettra un de vos morceaux. Et puis, merci beaucoup. Donc, Bob Passion, Le Cavalier Hilar. Et c'est dans la collection Vent Noir, chez l'éditeur Vendailleur.
Vendailleur.
Merci.
Bonne journée.
super fantastique. Elle était bing et bing et bing, elle était beau, beau, beau. Elle était vraiment trop. Elle était wababalouba, elle était bavard. Elle était pas pour moi. Elle était monogame, monogame, super sexy. Elle était sexy et monogame, mais super sexy. Elle était sexy